bien, on remercie les musiciens, que Dieu les bénisse. Eh, hey, plus que 10 jours, dans 10 jours, vous êtes en studio, là. Hein. Alors, vous êtes en studio, moi, je serai à Abidjan. Ouais, la vie continue, la vie est belle avec Jésus. Ouais. C'est des fois difficile. On va prier pour notre frère Régis et pour le frère de Charef aussi. On se met debout et on prie. Notre Dieu, nous invoquons ton nom sur ces deux hommes. Te demandons, mon Dieu, d'étendre ta main sur eux et de leur donner la guérison dont ils ont besoin. Merci Seigneur Jésus. Donne à chacun exactement ce dont il a besoin, pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amen.
Amen.
Vous pouvez vous asseoir. On salue aussi Mélodie et Eric, qui aujourd'hui ne sont pas là. Vous pouvez vous asseoir. Hein. Parce que, déménagement, ils ont trouvé une superbe maison, magnifique, toute vitrée, extraordinaire. C'est bien, on est très contents pour eux. Alors, ils sont un petit peu dans les cartons, parce qu'ils sont un petit peu à la bourre, parce que... voilà, mais on va aller leur donner un coup de main encore cet après-midi avec le bus de notre ami Roger. On a vraiment des amis formidables dans la région, que Dieu les bénisse. Voilà, et bien ce matin... Je vais prendre la nouvelle Bible que j'ai reçue. C'est tous des gens qui m'aiment et qui m'écrivent, là. Ils sont charmants. Mais je vais couper le son. Voilà. Tout simple. Voilà. Ça, je vous recommande. C'est une nouvelle Bible qui est sortie. Elle s'appelle La Bible juive complète, une nouvelle version de la Bible par David H. Stern. Chez Emmet Édition, vous pouvez commander ça. Ça, c'est Stéphane et Dominique qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Alors, c'est un peu choquant parce que on n'a pas l'habitude. D'abord, les livres ne sont pas mis dans le même sens que dans nos Bibles. Je vous avais déjà parlé du Nouveau Testament, mais là, je vous parle de la Bible en entier. Ils ont fait un beau boulot. Ouais, les choses, ça fait réfléchir. Chaque fois qu'on trouve une nouvelle version, ça fait réfléchir. Hein. Mais c'est bon de réfléchir, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut réfléchir dans la vie, il ne faut pas simplement obéir. Et je lisais dernièrement au sujet d'un... Vous avez entendu parler de Eichmann? Eichmann, c'était un des sinistres collaborateurs de Hitler. Et quand il y a eu son procès, les gens imaginaient qu'ils allaient rencontrer une espèce de monstre rempli de haine et tout, mais non, en fait, ils ont rencontré un petit tâcheron, nul de chez nul, un type simplement qui obéissait à tout ce qu'on lui disait sans réfléchir. Un pauvre taré, voilà. Bon, ben, on ne veut pas être de cette sorte de personne qui obéit sans réfléchir, un pauvre taré. Voilà. On leur aurait dit de tartiner, du Nutella, 50 tartines par heure, il l'aurait fait. On l'a vite fait ou autre chose, il l'a fait, il n'a pas mesuré. Non, un tâcheron, voilà, quelqu'un qui obéit. Il y a beaucoup de chrétiens qui font que d'obéir, mais il leur manque quelque chose. On va voir ça aujourd'hui. Lévitique 19, 18, où c'est Moïse qui parle de la part du Seigneur et qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Adonai, tu observeras mes ordonnances. » On peut dire « Amen », hein ?
Amen.
Alors, ce matin, je voudrais vous parler d'une chose un petit peu mal comprise. Vous savez que nous sommes entrés dans le rétablissement de toutes choses et nous travaillons à cela et nous cherchons et nous trouvons parce que celui qui cherche, il trouve. Et cette chose mal comprise, elle est mal comprise, elle est devenue une partie de notre culture malheureusement. Et pourtant c'est une chose archi fausse. Elle est fausse parce qu'au fil des siècles, ceux qui nous ont parlé prétendument au nom du Seigneur Jésus-Christ ont en fait piétiné Jésus et son message. Et le magnifique enseignement de Jésus-Christ sur l'amour de notre Père Céleste à notre égard, c'est devenu des dogmes, c'est devenu des trucs qui nous pourrissent la vie. Voilà, c'est dit. Ça nous pourrit la vie. Les pères de l'Église, bon, ils n'ont pas fait que des bêtises, mais alors là, ils ont fait fort. Ils ont fixé des normes. Et depuis, on croit dans et on respecte leurs dogmes, leurs normes, leurs règles à eux, plutôt que de respecter les paroles vivantes de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est malheureux. C'est devenu... Vous savez, on dit les Suisses sont disciplinés. Pourquoi ? Parce que ça fait des siècles que c'est comme ça, et c'est dans nos gènes. Eh bien, dans le monde entier, le christianisme est devenu ce qu'il est devenu parce que c'est dans nos gènes maintenant. Il faut enlever tout ça, il faut faire un nettoyage, on a besoin d'un rétablissement. Parce que l'Église est malade, mes frères et sœurs. Il faut qu'elle soit rétablie dans sa santé, en revenant à simplement au message de Jésus-Christ, de son amour. Les religions ne nous demandent jamais de nous interroger. Et, ah oui, ça, pour vous dire qu'il faut vous introspecter, ça, alors là, il n'y a pas de problème. Elles ne vous disent jamais de vous interroger, mais toujours de mettre en pratique aveuglément ce qu'elles disent. C'est comme ça. D'abord, Dieu n'est pas un père fouettard. Ça, il faut que ça soit clair. Et Jésus, qui est Dieu, qui est venu sur cette terre dans un corps semblable au nôtre, et ne venez pas me dire que c'est pas possible à Dieu de faire ça, parce que vous savez, les musulmans disent que Dieu ne peut pas faire ça. Ah bon ? Leur Dieu ne peut pas faire ça, parce que leur Dieu n'est pas tout puissant, mais notre Dieu est tout puissant et il peut faire ça. Il est venu dans un corps de chair et il nous a parlé et il nous a montré l'exemple dans un corps semblable au nôtre et il refusait absolument toutes les normes imposées. Ah bon ? Mais oui, vous allez voir. Même des fois, il va jusqu'à refuser la moralité imposée par ceux qui prétendent parler au nom de son Père. Regardez Jésus qui parle avec cette femme adultère, prise en flagrant délit d'adultère. Et encore une fois, je me plais à dire où était l'homme. Ces religieux l'avaient laissé partir, ils avaient pris la femme, c'était tellement plus facile, n'est-ce pas? Et c'est encore toujours la même chose avec ces religieux, c'est les femmes qui en prennent toujours plein les dents. Et regardez comment Jésus pousse cette femme à se reconnaître digne d'amour d'elle-même. Ces pauvres diables de religieux en ont fait une maladie de foi aussi peut-être. Qu'est-ce qui dit à cette femme que ces hommes rigides voulaient lapider au nom d'une loi ? Il y en a encore qui le font, hein ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il lui dit « Va et ne pêche plus, je ne te condamne pas. » C'est pas vrai ? Qu'est-ce qu'il dit au collecteur d'impôts que tout le monde déteste ? Il lui dit « Relève la tête et va de l'avant. » Que dit-il à la Samaritaine, honteuse de sa mauvaise vie qu'elle avait menée? Elle avait eu je ne sais plus combien de maris, celui avec qui elle était, c'était pas son mari, enfin bon, c'était la honte du village. D'ailleurs, elle venait au puits toute seule au moment où il n'y avait personne, comme ça elle n'avait plus de soucis. Hein, voilà. Jésus lui demande à boire. Et quand il lui fait cette demande, il est en train de casser toutes les belles règles de pureté et de bienséance à cette époque. Qu'est-ce qu'il a fait ? En cassant ces règles, il a rendu la dignité à cette femme. Voilà ce que Jésus a fait. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Eh bien, je vais vous le dire. Sans raison. Sans raison. Juste parce qu'elle méritait qu'on la traite dignement, et cela indépendamment absolument de ses mérites ou pas, indépendamment de toutes les considérations des bien-pensants, des religieux et toutes les grenouilles de bénitier de son coin, indépendamment de tout ça, il a fait ça juste parce que cette Samaritaine était un être humain. Oh ! Il semble que Jésus soit en total désaccord avec la sainte loi de Moïse quand il fait ça. Avec la femme adultère, avec cette femme qui est aussi une femme voilà, la pauvre, elle est peut-être tombée aussi sur des maris qui étaient des salopes, pardon, des... Quel mot on peut dire ? Oui, enfin, des gens pas bien, quoi. Hein ? On pourrait penser que Jésus était contre la loi de Moïse, mais pas du tout. Il est en plein accord avec la plus belle loi de Moïse, celle qu'on vient de lire tout à l'heure, dans Lévitique chapitre 19-18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comme Jésus avait beaucoup de respect pour lui-même, et comme Jésus avait beaucoup d'amour pour lui-même, eh bien, il pouvait en avoir pour cette femme que tout le monde voulait condamner. Voilà. Il aime cette femme telle qu'elle est parce qu'il s'aime lui-même. Il met en pratique la plus belle, Jésus le dira plus tard, c'est le message. Aime ton Dieu et aime ton prochain. C'est le message. Mais on ne peut pas aimer son prochain si on ne s'aime pas soi-même. Et il veut que nous nous aimions comme il s'aimait lui-même, afin que nous puissions aimer les autres comme lui, il les aime. N'est-ce pas ça la vérité ? C'est ça la vérité. Ne venez pas me dire que c'est une interprétation de Michel Janton, ne venez pas me dire que c'est une espèce de... Non, c'est la vérité. C'est ce que les religions enseignent qui est faux. Et mes frères et sœurs, en gros, ça signifie qu'aimer, c'est une faute contre la raison. Et cette phrase-là, aimer, c'est une faute contre la raison, elle n'est pas de moi, elle est de Simone Veil. Eh oui. Eh oui. Vous voyez, s'aimer soi-même, c'est de l'amour normal. C'est de l'amour naturel. Si on ne s'aime pas soi-même, pauvres enfants, mais fringons-nous! Finissons-en! Cette vallée de larmes et de souffrances, en se détestant, en se flagellant, en s'autocritiquant tout le temps, mais quelle bêtise! Quelle horreur! C'est pas mal de s'aimer soi-même, en fait, puisqu'on doit aimer notre prochain. Comme on s'aime soi-même, ne pas s'aimer soi-même, c'est de la folie. C'est de la folie. Donc toutes ces personnes qui veulent avoir l'air humble, n'est-ce pas, et qui disent « Je suis un pauvre pécheur, oh vous savez, moi, il faut pas, je suis nul, gnagnagna », eh ben, c'est souvent de dire « Je folle !» Pardon. Mais voilà, au moins comme ça, c'est dit. Parce qu'ils désobéissent au commandement le plus important d'aimer Dieu, d'aimer son prochain comme on s'aime soi-même. C'est le pire. Désobéir à ça, c'est la pire chose. C'est démoniaque. Ce qu'ont fait ces théologiens en transformant l'amour de soi promené par Moïse, la loi, et par Jésus, la grâce, c'est démoniaque d'avoir transformé tout ça en haine et en mépris de soi. D'avoir transformé ces messages en messages de haine et en messages de mépris de soi. Il faut mépriser notre corps, ça vient de là que tous les problèmes et tout. Mais c'est eux qui ont des problèmes. C'est pas moi, c'est pas Jésus, c'est pas Moïse. C'est ces espèces de pourris, de frustrés, de religieux qui sont bien à plaindre de ne pas s'aimer eux-mêmes, mais alors qu'ils ferment leur boîte à camembert, comme disait l'autre, parce qu'ils nous empoisonnent avec leur message. C'est un type nommé Plotin, qui a lancé cette sale idée. Elle a été reprise environ 100 ans après par Saint Augustin. Saint Augustin, la personne, l'être que nous sommes, l'être que Dieu a tant aimé, est un obstacle à la quête de la sagesse. Toi, que Dieu a tant aimé, tu es un obstacle. Pourquoi Dieu t'aime alors ? Pourquoi ? Et qu'il nous faut en enfer tout de suite si on est si monstrueux que ça. Qu'est-ce qu'il va faire avec nous dans le paradis toute l'éternité si on est si détestable ? Mais c'est un non-sens, mais c'est effarant. On ne doit aimer que Dieu. Eh oui. Il y a une sœur en Suisse, c'était la sœur Hilda. crois que c'était elle, ou la sœur Rose, mais je ne sais plus, enfin c'était une de ces deux. Ils avaient invité à manger, puis il y avait des petits pois carottes, je crois. Ah, j'adore les petits pois.
Non, on doit adorer que Dieu.
Voilà, ben, sans savoir, elle faisait du plotinisme. Plotin. Il disait, ce malade de Saint-Augustin, parce que pour moi c'est un malade, que les êtres qui se détournent de l'amour du bien supérieur, c'est-à-dire de Dieu, de cet être immuable, du Dieu, pour se complaire en eux-mêmes, sans ténèbres. Et sa prière, celle qui est restée célèbre, une prière de Saint-Augustin qui est restée célèbre, et c'est textuellement celle-ci, « Mon Dieu, faites-moi connaître ce que je suis, et je n'ai pas besoin d'autre chose pour me couvrir de honte et de mépris de moi-même. » Aime ton prochain comme toi-même. Ben dis donc, si j'avais vécu à son époque, j'aurais évité de le rencontrer afin qu'il ne m'aime pas, hein. Parce que s'il m'avait aimé comme il s'aimait lui-même, j'aurais eu des problèmes avec ce type-là. Alors, lui, s'il disait aimer son prochain, ça signifiait qu'il le méprisait, puisqu'il se méprisait lui-même. Il faut s'interroger, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est une bonne question? Excusez-moi, mais j'aurais pas aimé être aimé par ce monsieur. S'aimer soi-même, c'est devenu à ses yeux une obscénité. Infernal. Il méprisait les autres comme il se méprisait lui-même. Obligé. C'est devenu une obscénité de s'aimer soi-même, c'est devenu la source de tous les péchés. Et puis alors, Saint Thomas d'Aquin, n'est-ce pas, il enfonce le clou, il remet une couche de Nutella par-dessus, en écrivant que ne pas être humble, c'est une faute condamnable. Et puis, non, non, cardinale. Une faute cardinale. Ils n'ont rien compris, ces pauvres gens. En fait, pour ces gens-là, s'aimer soi-même, c'est une perversion. C'est une perversion. Moi, je vous dis, entre ces malades religieux-là et Moïse et Jésus, ben moi, je choisis Moïse et Jésus. Voilà. Et je rejette tous ces autres-là. L'amour de soi, c'est la condition pour avoir la paix en soi. Celui qui ne s'aime pas n'est pas en paix avec lui. C'est vrai. Une fois que cette paix est installée en nous, parce qu'on s'est rencontré, parce qu'on a compris qui on est, parce qu'on a compris que Dieu nous aime, on a compris pourquoi il nous aime, quand on a compris ça, alors on peut aller fouiller un petit peu sans avoir peur de trouver en nous un monstre. Il n'y a pas de monstre. En vous, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit, si l'Esprit n'est pas en vous, si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, vous n'appartenez pas à Dieu. Et je dis, ces saints-là n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils contredisaient le Saint-Esprit de la grâce et de l'amour. Ils contredisaient l'Esprit de la grâce et de l'amour. Ils n'avaient pas l'Esprit. C'était leur chair troublée par le péché qui leur faisait dire des choses comme ça. Ils avaient sans doute des péchés qu'ils détestaient et ils s'identifiaient à ces péchés et ils disaient comme les gens, je suis ceci. Non, vous êtes pas, vous commettez un péché, ça veut pas. Vous êtes aimé de Dieu. Vos péchés sont pardonnés. Vous pouvez vous pardonner aussi vous-même. Si les autres ne veulent pas vous pardonner, c'est leur affaire. L'amour de soi nous guérit. Jésus le savait et Jésus l'enseignait. Je vais vous parler d'un autre bonhomme qui n'est pas chrétien, pour la simple et bonne raison qu'il est né 5 siècles avant Jésus-Christ. Il s'appelait Socrate. Socrate, lui aussi, il avait compris ça. Socrate, il s'adressait à tout le monde, il parlait comme ça avec les gens. Un jour, il s'est adressé à un monsieur, un jeune homme qui s'appelait Alcibiade. Alcibiade. C'est un jeune homme qui était très beau, qui était riche, qui était courtisé, qui était ambitieux, et Alcibiade commença par regarder M. Socrate de la tête aux pieds, et alors évidemment, il l'a méprisé. Pourquoi ? Parce que pour lui, si tu n'étais pas beau, si tu n'étais pas habillé richement, si tu n'étais pas courtisé, si tu n'avais pas une petite foule autour de toi, si tu n'étais pas ambitieux, tu étais méprisable, donc pas aimable. Et Socrate va emmener Alcibiade petit à petit à comprendre qu'il est en train simplement de n'aimer que les choses qui sont extérieures à lui. Il aime l'image de lui que les autres voient et lui envient. Il ne s'aime pas parce qu'il ne se connaît pas. Il ne connaît que l'image que les autres voient et lui renvoient et lui envient, etc. Mais il ne s'aime pas lui-même. Et vous savez pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que ce pauvre Alcibiade, il ne s'est jamais rencontré. Il ne sait pas qui il est vraiment. Alors Socrate ne veut pas lui demander de s'admirer, de s'aimer. Non, il va lui demander de s'interroger. Et c'est ça que je voudrais aujourd'hui. Avant de vous aimer vous-même, dites pas « je m'aime de l'amour du Seigneur ». Non, 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 il faut interrogez-vous d'abord. Et Socrate lui a demandé de s'interroger lui-même, de se remettre en question pour voir qui il était lui-même, afin de pouvoir être vraiment heureux. On ne peut être heureux que de ça. Tout le reste est extérieur. En fait, Socrate montre à Alcibiade que la grande maladie des gens, c'est la négligence envers eux-mêmes. Vous allez me dire, mais Alcibiade n'était pas négligent envers lui-même. Il se lavait, il s'habillait bien et tout ça. Mais c'était que pour paraître. Mais frères et sœurs, ne trouvez-vous pas ridicule les gens qui cherchent à connaître les autres alors qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes? Vous savez, vous ne pouvez rien faire de bon, rien faire de juste pour les autres tant que vous ne savez pas d'abord ce que vous devez faire de bon et de juste pour vous. C'est le message de Jésus. Il y a quelques jours, j'ai reçu un coup de téléphone d'une dame qui me racontait son problème de couple, et je lui ai parlé du Seigneur, je lui ai dit qu'on priait pour elle, d'ailleurs on prie pour elle. Mais surtout, à un moment donné, je lui ai dit, est-ce que vous avez lu le livre « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus » Elle me dit qu'elle avait lu ça sur Internet, mais qu'elle n'avait pas acheté le livre, mais ou la pièce, elle avait vu la pièce, je crois, je ne me rappelle plus. Mais ce livre est fantastique, je vous le recommande, c'est pas un livre qui a été écrit par un chrétien, mais il est bourré de sagesse. Avec mon épouse, quand on l'a lu, j'en avais acheté un, mais j'ai trouvé tellement génial que j'en ai acheté un à ma femme, et au lit, le soir, on le lisait, et on riait comme des fous, parce qu'elle me disait, regarde, là, il parle de toi. Je dis, mais attends, moi, je trouve un passage où il parle de toi. En fait, on est à la base tous absolument pareils. Il y a juste quelques petits détails qui font que, voilà, il y en a qui ont un gros nez. Mais enfin, on est à la base, on est tous pareils. Et on est aimés de Dieu. Mais il faut savoir qui on est. Si on ne sait pas qui on est, c'est grave. Comment voulez-vous aimer les autres qui sont comme vous si vous ne vous aimez pas vous-même ? Alors, c'était aussi le message de Socrate, ça, en quelque sorte. Mais bon, qu'est-ce qu'on a fait de Socrate aujourd'hui ? Demandez aux universitaires, demandez à mes petits enfants qui l'étudient à l'école, demandez-leur. On a fait de son message une réflexion hautement intellectuelle, n'est-ce pas ? Des enseignements désincarnés, secs, abstraits, masturbatoires. En fait, on a trahi Jésus dans les églises et on a trahi Socrate dans les écoles. Voilà, ça c'est moi ce que je pense. Vous pensez pas pareil, vous avez le droit, hein ? Mais moi, j'ai pas de problème avec moi. Les religieux et les profs ont fait quoi avec les enseignements magnifiques de Jésus et de Socrate et de bien d'autres ? Ils ont fait des gens, des petits tâcherons, C'est qu'ils sont toujours à la tâche, en train de faire des trucs pour se prouver à eux-mêmes, des machins, et des gens qui se contentent d'obéir, des gens qui sont habités par une médiocrité abyssale. C'est infernal, en fait, ce qu'on dit de faire et de croire aux gens dans les églises, dans les écoles, c'est jamais de se questionner, mais c'est d'imposer, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est la norme. Et si vous sortez de là, vous n'êtes pas normal. Eh ben, je suis un anormal. Et ceux qui sont d'accord avec moi, levez la main.
Oui, je suis un anormal.
Qui parmi les chrétiens se considère comme intelligent? Aucun ne le dira. Personne ne va dire, moi, je suis intelligent. Pourtant, il y en a.
Pas beaucoup.
Non, si, il y en a. Aucun ne le dira, parce que ce qui leur suffit, c'est d'obéir. Ils sont allés dans une église. Voilà, asseyez-vous là.
Oui, monsieur.
Est-ce que vous avez été baptisé? Oui, quand j'étais enfant. C'était faux. Il faut se faire baptiser, tremper dans l'eau. Ah bon, plouf. Après, il rencontre un autre. Vous étiez baptisé comment? Par immersion, ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est faux, il faut le faire au nom de Jésus. Ah bon? Plouf. Après. Mais vous avez été baptisé comment? Au nom du Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par immersion. Ah bon? Mais la tête en avant ou la tête en arrière? Et plouf. C'est nous qui avons raison. Faut obéir, vous devez obéir. Si vous obéissez pas, vous êtes perdu. Vous irez en enfer. Ils sont tous comme ça. Ils ne disent pas d'une façon aussi grossière que ce que je... Là, je fais un petit peu du théâtre, hein. Je fais du grand guignol. Mais c'est bien ça, quand même, ce qui se passe. Venez pas me raconter des histoires. Ça fera 50 ans au mois de juin que je connais les milieux évangéliques. Alors ne venez pas me raconter des histoires. Je connais. Quand je vois ces petits jeunes qui ont 1 an et demi, 2 ans de conversion sur YouTube et qui viennent vous affirmer des trucs et des machins alors qu'ils savent rien du tout et qui sont en train de se gourer et d'entraîner les autres dans l'erreur, mais puis après je lis les commentaires, amen, frère, t'as raison, alléluia. C'est terrible. Et les chrétiens se plaignent de leurs églises, mais ils en acceptent toutes les aliénations et ils se soumettent à tout ce qu'on leur impose. Par contre, on a des séminaires. Toujours quelqu'un m'écrivait, est-ce que vous faites des séminaires? Non, je devrais peut-être en faire finalement. Je pense. Verra. On fait des séminaires, n'est-ce pas, autour de la parole de Dieu, des réflexions intellectuelles, au sujet des paroles de Jésus qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Mais vraiment, j'ai été dans des séminaires comme ça. Mais c'est... Sortez de là, vous savez que vous en êtes. Hein. Jésus est la vie. Il est la vie. Il n'est pas une machine à distiller des enseignements pour qu'on les dissèque et puis qu'on... Et qu'on s'auto-flagelle ou qu'on... Non! L'autre jour, mais vous voyez, mais c'est comme ça, mais réellement tout le temps, partout. Là, pas plus tard que cette semaine, un frère m'a écrit et me demande comment prier pour les aveugles. J'étais surpris par sa question, j'ai dit, parce qu'il avait en vue que j'avais un ministère avec de guérison, il avait vu sur Révélation Bible qu'il y avait eu plusieurs aveugles qui ont été guéris, alors il voulait savoir comment il faut prier pour, n'est-ce pas, guérir les aveugles. Mais vous voulez que je lui réponde?
Quoi?
Ça ne s'enseigne pas. Ça ne s'enseigne pas. D'abord, la moindre des choses, c'est d'aimer Dieu, c'est de s'aimer soi-même, et de croire qu'on a reçu de Dieu, puis d'y aller, puis d'aimer les autres, et puis prier pour eux. Vous priez pour les aveugles, la même chose que vous priez pour quelqu'un qui a mal à la tête, c'est la même chose. Il suffit d'avoir un peu d'amour, c'est tout. C'est tout. Mais il n'y a pas besoin de faire un séminaire ou une explication théologique en 4 points pour expliquer comment prier pour les aveugles et une autre étude pour expliquer comment prier pour les sourds et une autre pour expliquer comment prier pour ceux qui ont un cancer. Non ! Mets de l'amour dans tout ce que tu fais. De l'amour pour Dieu, de l'amour pour toi, et alors tu auras de l'amour pour ton prochain. Puis tu iras tout simplement faire les choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prier pour un aveugle, ce n'est pas spécial. C'est un pas de foi en Dieu. C'est un pas de foi envers toi qui crois que tu as reçu pour le faire. Et puis c'est un pas d'amour envers les autres qui souffrent. Et puis c'est tout. Un petit peu d'amour. Les chrétiens... Alors après, il me dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer des livres ? Il est où ? En Afrique. Je dis non, lisez déjà ce qui est sur Révélation Bible, ça suffira. Alors il marque OK, et depuis il ne m'écrit plus. Il doit être vexé, le pauvre frère. Mais il a tout là, dans Révélation. Il y a des milliers d'informations. Il veut que je lui envoie des livres. Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Les chrétiens souffrent d'un manque d'amour. Pas d'un manque d'amour envers Dieu, je dis pas ça, ils aiment Dieu. Mais un manque d'amour pour eux-mêmes. Un manque de respect pour eux-mêmes. Donc, un manque d'amour pour leur prochain. L'amour, ça guérit tout. L'amour, ça guérit tout. Jésus le savait, Socrate l'avait compris. Mais nous, au XXIe siècle, eh bien, on a occulté cette grande vérité. Et nous avons détourné les yeux du message de Jésus. C'est terrible! C'est terrible. Et on veut que tout soit explicable. C'est terrible. Il nous faut personnellement revenir à Jésus et à son message. Ne vous fâchez pas, vous les personnes dont j'ai parlé aujourd'hui, ne vous fâchez pas. Revenez simplement au message de Jésus. Regardez comment Jésus aimait les gens. Admirez sa façon d'aimer les gens. Et qu'une seule sorte de personne qui ne l'aimait pas trop, c'était les religieux. La seule fois où il s'est fichu en Rome, c'était dans le temple. Voilà. Après, vous dites, oui, Michel, tu gueules tout le temps sur les religieux. Pardon. Jésus a dit tout ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Voilà. Je ne peux pas me taire. Ils sont en train d'empoisonner tout le monde. Alors, j'élève ma petite voix pour dire ça. Aime-toi. Reconnais que tu es aimé de Dieu. Reconnais qui tu es en Christ. Crois ce que Jésus dit. Pas ce que le diable ou les gens te disent. Ou ne crois pas ce que tu crois que tu dis, parce que beaucoup de gens disent « Ouais, qu'est-ce que je fais bête, mais qu'est-ce que je fais... » Mais non, c'est pas toi qui le dis, c'est le diable qui parle dans ton cœur avec la première personne du singulier. Mais c'est pas toi. T'es pas bête, absolument pas. C'est un mensonge du diable qui parle dans ton cœur en prenant la première personne du singulier. Apprécie la nouvelle créature que tu es, aime cette créature que tu es. Dans une version, j'aime bien, c'est écrit, tout est en train de devenir nouveau. C'est pas devenu nouveau comme ça, parce que t'as levé la main ou parce que t'étais trempé dans l'eau. C'est, tout est en train de devenir nouveau. Eh ben, entre dans cette eau de vie qui te rend propre, qui te rend nouveau, qui te magnifie, qui glorifie Dieu parce que tu relèves la tête, parce que tu deviens quelqu'un de spirituellement intelligent, de cœur et de tête. Et puis fonce, vas-y. Tant pis pour les gens qui disent que tu es orgueilleux. Moi, depuis que je suis né de nouveau, on a toujours dit que j'étais orgueilleux. Mais toujours, les gens ont dit, Michel Janton est orgueilleux. Non, je suis fier d'être la personne que je suis. Je ne voudrais pas être une autre personne. Il y a certains trucs que j'aimerais bien changer, que je m'applique à changer, mais ce n'est pas de l'orgueil, c'est simplement je me respecte. Puis je ne veux pas faire semblant d'être humble pour faire plaisir à des religieux coincés. Non. Je suis comme je suis, on m'aime ou on ne m'aime pas. Moi, je m'aime bien. Et c'est tout. Est-ce que vous m'aimez aussi ? Voilà, c'est tout. Bah, ceux qui m'aiment me suivent, comme disait la baguette. Tant pis pour les gens qui disent qu'on est orgueilleux. Fais ce que Jésus te dit de faire. Aime-toi, respecte-toi. N'obéis pas, mais aime. Bien sûr que quand, si tu aimes Jésus, tu vas lui obéir. Quand il va te dire de faire quelque chose, tu vas le faire. C'est obligé, mais par amour, pas par obligation, pas pour te consoler ton petit cœur. Quand Jésus dit « Donne à celui qui demande », tu ne vas pas lui donner pour parce que Jésus l'a dit. Mais tu vas... Jésus, ce qu'il te dit, c'est pour réveiller ta conscience. Pour que tu... Parce qu'on a des milliers de choses à penser. Donc on se rend compte, oui, c'est vrai, faut que... tiens, je vais donner là. Voyez, mais pas par obligation, mais par amour. C'est quand même pas compliqué. Mais si tu aimes, tu c'est sûr que tu vas obéir à Jésus. Mais pas comme comme un abruti qui vous savez, on a un petit cœur qui dit assis sur le bord du chemin, mendiant tendait la main. Attendant que les gens lui jettent, je ne sais plus comment c'est, quelques sous pour se consoler le cœur. Mais c'est vrai, beaucoup de gens donnent pour se rassurer en disant « Ouais, je ne suis quand même pas complètement pourri, je donne beaucoup d'argent. » C'est pas ça qui fait que vous n'êtes pas pourri. Vous n'êtes pas pourri parce que Jésus vous a lavé. Parce que Jésus vous a tellement aimé qu'il vous a lavé, il vous a purifié, il a fait de vous une nouvelle créature. Vous pouvez aimer cette nouvelle créature. Puis les trucs qui ne marchent pas bien encore, mais vous êtes en marche, vous êtes en train de les évacuer petit à petit. Ça peut prendre du temps, mais ce n'est pas grave. Ne vous haïssez pas, mes frères et sœurs. Ne vous haïssez pas. Quand tu obéis à Jésus, tu prends le risque de ne plus pouvoir obéir aux saintes règles de la Sainte Église. Parce que cette pauvre église est devenue apostate, c'est tout. Alors à qui tu préfères obéir ? À Dieu ou aux hommes ? À qui tu préfères plaire ? À Dieu ou à ses représentants ? Entre guillemets représentants. Moi j'ai vite fait mon choix, fais le tien, que Dieu te bénisse. Amen. Merci Jésus d'aider mes frères et sœurs à comprendre tout ce que j'ai dit, à le réécouter si c'est encore un petit peu flou. S'ils ont pris tout ça comme un choc, permets qu'ils puissent le réécouter. Merci pour la technologie qui nous permet de faire cela. Et je te demande, mon Dieu, que cela les pousse à s'interroger et à glorifier ton nom en manifestant plus d'amour envers toi, envers eux-mêmes et envers les autres. Merci Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Au revoir.